Voilà, donc, vous le savez, on a très souvent évoqué la question du mensonge de la littérature, celui de la fiction, de sa prétention à la vérité ou à la représentation du réel. Et c'est Platon qui fut l'un des premiers à en déduire un anathème contre les poètes qu'il exclut de sa cité idéale. Mais en même temps, on pourrait ajouter que si la littérature nous ment, elle le fait en toute connaissance de cause. De sorte qu'on devrait finalement interroger cette attitude, non pas seulement en tant que mensonge, mais plutôt en tant que mauvaise foi. Et ce qu'on constate, c'est qu'on en a assez peu parlé, hormis peut-être Maurice Blanchot, qui affirmait que, je le cite, « le roman est une œuvre de mauvaise foi ». Et même Sartre, qui avait pourtant réalisé l'étude ontologique et phénoménologique de la mauvaise foi dans « L'être et le néant », n'applique jamais cette notion aux œuvres, alors même qu'il critique à plusieurs reprises les mensonges romanesques, en particulier dans ses articles pour son recueil « Situation 1 ». Mais en même temps, la mauvaise foi, c'est pas tout à fait le mensonge, même si elle ne l'exclut pas. La définition usuelle de la mauvaise foi, c'est mentir en sachant fort bien que l'on ment, mais c'est une définition qu'on peut compléter justement à partir des analyses de Sartre dans « L'être et le néant ». Sartre en fait une structure de l'être qui veut être ce qu'il n'est pas et ne pas être ce qu'il est. Il prend le célèbre exemple du garçon de café qui veut être garçon de café mais qui ne peut pas l'être tout à fait et qui ne peut l'être qu'en représentation. Si bien que la mauvaise foi, c'est cette attitude qui permet de coupler l'affirmation d'une chose et la négation de cette même chose en même temps sans chercher à surmonter cette opposition dans une sorte de synthèse. Et en fait, quand on y réfléchit bien, c'est justement le fonctionnement même de l'œuvre littéraire, pour plusieurs raisons que je vais détailler très rapidement. D'abord dans le rapport de l'œuvre au réel, un réel auquel l'œuvre veut nous faire croire alors que, bien sûr, elle ne réalise pas, elle ne représente pas ce réel directement. De même, l'acte de lecture peut être décrit comme un acte de mauvaise foi, puisque le lecteur croit à cette réalité qu'il lit et en même temps n'y croit pas. C'est donc bien la mauvaise foi en tant que structure de la conscience qui peut être comprise aussi comme une structure esthétique nécessaire, qui est commandée par le rapport de l'œuvre au réel, mais aussi au sens, puisque l'œuvre a cette capacité d'affirmer une chose et de la nier dans le même temps, et le rapport du lecteur au texte. Et donc ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est plus spécifiquement la manière dont cette mauvaise foi est devenue au XXe siècle, après la fin du rêve rousseauiste de la sincérité, la crise du sujet et du savoir qui commence à la fin du XIXe et qui affecte le XXe siècle, eh bien comment cette mauvaise foi est devenue centrale dans la littérature, une sorte de question qui a été posée avec insistance à l'aide de deux veines d'écriture principales, me semble-t-il, que je voudrais distinguer. D'abord, ce qu'on pourrait appeler des récits trompeurs, qui reposent donc sur une supercherie visant à prendre au piège le lecteur. On peut penser au Bavard de René-Louis Desforêts, la chute de Camus, un cabinet d'amateurs de Pérec, la méprise de Nabokov. Et deuxième veine, les réécritures du roman policier, très nombreuses aussi dans la littérature du XXe siècle, qui repose toujours sur une dissimulation et sur une ruse avec le lecteur. Alors, pour des raisons de temps, je ne vais me consacrer qu'aux réécritures du roman policier, en les considérant comme une sorte de cas extrême qui va interroger la mauvaise foi nécessairement constitutive de l'œuvre littéraire pour voir comment et quels en sont les enjeux. Alors, la première chose qu'on peut noter, c'est d'abord peut-être l'importance sans commune mesure qui est prise dans ces textes par le texte lui-même ou par les œuvres d'art. Et on pourrait pratiquement parler d'une sorte de tournant textualiste dans ces enquêtes qui me semble annoncer, par exemple, par un texte comme « La lettre volée » de Poe, où l'enquête se fait justement sur un support textuel. Et le texte va progressivement même devenir l'unique objet de l'énigme, en particulier dans de nombreux récits qui sont dédiés à l'érudition ou à la littérature et qui vont épouser une forme d'investigation très nettement policière, voire qui vont basculer de l'érudition à la criminalité. On va trouver ça chez Borges, dans Le voyage d'hiver de Pérec, ou même dans 2666 de Roberto Bolaño. Et à l'origine de cette veine d'écriture, à côté des Garpeaux, on peut aussi penser bien sûr à Henry James, avec les papiers d'Asperne ou le motif dans le tapis, qui sont des récits policiers, hein, qui mettent en scène des enquêteurs acharnés et obsédés par les mystères d'une œuvre et de la création. Voilà, et donc on observe cette présence très manifeste du texte ou de l'œuvre d'art dans les réécritures de romans policiers. On peut penser à l'emploi du temps de Michel Butor, où Jacques Revel va interroger à plusieurs reprises le vitrail de la cathédrale, les tapisseries du musée, et même un roman policier qui s'appelle Le meurtre de Bellestone, afin qu'il serve de guide, en fait, pour mener son enquête. Dans Projet pour une révolution à New York de Rob Grier, le narrateur médite sur un roman policier et il enquête même sur l'enquête qui est racontée dans ce roman. Dans La disparition de Pérec, les amis d'Anton Voyle, qui a disparu, enquêtent sur sa disparition à l'aide de son journal intime, qui comprend de nombreux pastiches et de nombreuses réécritures d'œuvres littéraires, et ils n'arrivent pas à les interpréter, et de ce fait, ils se disent qu'ils auraient besoin de lecteurs plus compétents pour les aider, une sorte de professionnel du déchiffrement. Alors ils se disent qu'il leur faudrait un Champollion d'abord, ensuite un Chomsky, un roman Jacobson, ensuite un Bourbaki, alors c'est le groupe de mathématiciens qui a inspiré l'Oulipo, et enfin un Oulipo. Et il y a une sorte de gradation assez signifiante ici des collaborateurs qui sont envisagés, puisque c'est bien à l'herméneutique littéraire qu'il convient en dernier ressort de faire appel, parce que les indices ont finalement quitté le réel pour migrer dans des textes. Alors on peut se demander évidemment ce qui va justifier ce franchissement de la frontière qui sépare fiction et réalité. D'abord, c'est évidemment l'incapacité des personnages enquêteurs à déchiffrer un monde opaque. Et ensuite, c'est la certitude que l'enquête et l'analyse de texte partagent en fait une même démarche, que l'on peut lire le réel à la manière d'un texte. Mais évidemment, il y a là un leurre, une forme de mauvaise foi évidente, dont Jacques Roubaud s'amuse dans La Belle Hortense en montrant le caractère éminemment littéraire, textuel, presque artificiel de la révélation finale qu'organise tout détective dans le roman policier. Quand Blognard fait la lumière sur l'intrigue à la fin de La Belle Hortense, il parsème son argumentation de remarques du genre « dans ce roman où nous sommes, qui est un roman policier ?» Et on voit donc bien que le roman policier, qui voudrait passer pour un calque de la réalité, n'en demeure pas moins une de la pure littérature, c'est-à-dire un artifice, voire une sorte d'imposture. Et d'ailleurs, dans Projet pour une révolution à New York de Rob Grier, Laura utilise la couverture du roman policier dont j'ai parlé tout à l'heure pour créer un trompe-l'œil derrière la serrure qu'un serrurier est en train d'ouvrir. Donc on voit bien que c'est le roman policier lui-même qui permet de faire prendre une fiction pour la réalité. De ce fait, il convient de suspecter le texte, comme le propose aussi Rob Grier dans Les Gommes, où le narrateur qui commente un discours politique dévoile en fait les leurres du roman lui-même. Il dit ceci: « Au milieu des mots habituels se dressent ça et là comme un fanal, quelques termes suspects, et la phrase qu'il éclaire de façon si louche semble un instant cacher beaucoup de choses, ou rien du tout. Lecteur, vous voilà donc averti. » Mais en même temps, comme le disait Borges, le roman policier a créé un type spécial de lecteur, qui est un enquêteur ou un herméneute. Mais il y a plus, parce que cet herméneute, cet enquêteur, le roman policier, le manipule en même temps. Ces textes ont besoin de dissimuler la vérité pour fonctionner, si bien qu'il y a une rivalité qui se met en place entre le romancier et le lecteur. Alors il est vrai que si on pense à Agatha Christie ou à Conan Doyle, l'enquête reste apparemment possible pour le lecteur. Du moins, on l'entretient dans cet espoir. Ces romans affichent en fait un honnête contrat de lecture. Le lecteur serait censé avoir en main toutes les cartes pour percer les mystères. Et il serait, à ce titre, l'égal de l'inspecteur. Mais, j'ai le regret de vous le dire, ce contrat est en fait frauduleux, voire mensonger. Car le plus souvent, le texte travaille contre vous, contre votre enquête. Il se fonde sur un art savant et rusé du détail signifiant, mais qui est négligé, qui est noyé dans la masse des descriptions, des énumérations, dissimulé par son caractère anecdotique, camouflé dans les moments les plus dramatiques, tout ça dans le but, en fait, de vous inciter à moins d'attention. Mais en même temps, je vous fais confiance, vous n'êtes pas dupe. Pour mener votre contre-enquête, vous connaissez les codes du roman policier, vous avez conscience de sa mauvaise foi. Donc, vous aurez tendance à vous focaliser sur les détails les plus insignifiants, les plus inattendus, négligeant les indices trop visibles et les coupables que tout désigne. Ce que le romancier lui-même n'ignore pas, se lançant donc dans une surenchère de ruse, de dissimulation, pour vous induire en erreur. Et c'est bien ce duel dans l'ordre de l'enquête qui est à l'origine de la recherche toujours plus poussée dans l'invention de nouveaux dispositifs au sein du roman policier et de ses réécritures. Alors les raisons à notre échec face à ces romans, à notre enquête, sont en fait nombreuses. Si on prend simplement un roman comme 1, 2, 3 d'Agatha Christie, je ne sais pas si vous l'avez lu, et au risque de vous gâcher tout le plaisir de vous lire, je vais vous donner une partie de la solution pour vous dire que la solution se cache en fait dans le titre d'un roman policier qui est lu par le groom, et le roman s'appelle « La mort frappe à 11h45 ». Alors on peut quand même se demander si le lecteur aurait pu considérer ce détail comme la clé du problème. Alors j'en doute, en tout cas moi lecteur, je ne l'ai pas fait, mais je suis peut-être un peu naïf. En tout cas c'est bien avoué que les romans policiers et plus largement les fictions sont de mauvaise foi, car Agatha Christie nous fait croire que la réponse peut être dans le texte, dans sa lecture, dans un roman policier, dans celui qui est lu, que nous sommes donc en mesure de percer le mystère. Mais en même temps, il y a à cela une condition nécessaire, mais qui n'est pas toujours suffisante. Il faut que nous soyons de bons lecteurs. Les amis d'Anton Voyle dans La disparition de Pérec, par exemple, sont certes d'assez mauvais lecteurs. Mais en même temps, on peut quand même se demander s'ils ont vraiment la possibilité de ne pas l'être. Parce que l'indice principal qui leur fait défaut, c'est la lettre volée, le E. C'est un roman qui est un lipogramme. La disparition du E renvoie à la disparition des personnages. Donc c'est ça qu'ils doivent identifier. Mais rien n'assure qu'ils sont à même d'identifier cette disparition, parce qu'ils vivent quand même dans un monde où Rimbaud semble avoir écrit un poème qui s'appelle « Vocalisation » et non pas « Voyelle », où Mallarmé a l'air de s'appeler « Malarmus », où Hugo a signé un « Beaux assoupis » et non pas un « Beaux endormis ». Bref, ils vivent dans un univers sans eux, ils lisent des indices textuels sans eux, alors même que c'est cette voyelle qu'ils doivent identifier. Il y a là une situation extrême qui emblématise celle de tout lecteur à qui les principales clés de lecture ont été ravies. Ce qui fait qu'il conviendrait donc que vous, lecteur, vous soyez un lecteur particulièrement perspicace, que vous soyez un lecteur idéal, pour le dire un peu abruptement, que vous soyez Hercule Poirot. Mais en même temps, ce super lecteur, cet archi-lecteur, s'il incarne bien une sorte de ligne d'horizon vers laquelle on devrait tendre, nous renvoie en fait à nos insuffisances. Par ces révélations, il nous condamne à être des mauvais lecteurs. Et c'est ce qui amenait Jacques Roubaud dans L'enlèvement d'Hortense, qui est le deuxième volet de sa trilogie consacrée à Hortense, à poser une sorte de limite dans les configurations possibles du roman policier. Voilà ce qu'il dit. On a essayé toutes les combinaisons, mais on n'a pas encore écrit le roman où le lecteur est coupable, celui où il est victime. Alors, évidemment, on peut se demander s'il est bien raisonnable de faire confiance à une telle intervention d'auteur, qui pourrait être tout à fait ironique ou, pire encore, relever d'une forme de mauvaise foi. Parce qu'en fait, la culpabilité du lecteur ou le fait de le piéger sont beaucoup plus répandues que Roubaud ne veut bien le dire. Et au risque de vous terrifier et de vous empêcher de lire, je dirais que le meurtre du lecteur séduit le romancier. Alors en même temps, il ne peut jamais être vraiment perpétré, vous pouvez continuer à lire, voilà, rassuré. Il est quand même envisageable au moins de piéger ce lecteur, et on peut penser à l'exemplaire nouvelle de Cortazar, Continuité des parcs. Dans cette nouvelle, vous découvrez un homme en train de lire un roman, qui est confortablement installé dans un fauteuil de velours vert avec une très belle vue sur un parc. Il est tout entier saisi par l'illusion romanesque et l'identification au personnage. Une femme et un homme se rencontrent pendant ce temps et le lecteur en déduit qu'il s'agit des protagonistes du roman, l'amant et la maîtresse qui se rencontrent pour préparer le meurtre du mari. Et d'ailleurs, l'homme, armé d'un poignard, traverse un parc, rentre dans une maison, certainement celle du mari. Il s'approche d'un fauteuil qui est de velours vert, où se tient un personnage en train de lire et il l'assassine. C'est donc le lecteur lui-même qui, finalement, au comble de la surprise, se voit poignardé par le protagoniste. Un tel texte nous dit bien que la littérature est tromperie pour le lecteur et que son plaisir, son vertige, sa peur résident aussi là. Mais en même temps, au-delà de ce cas extrême, il semble bien que la plupart des récits trompeurs et des réécritures du roman policier fassent bien du lecteur à la fois la victime d'une machination et le coupable d'un crime qui, finalement, revient à plus ou moins grand degré à avoir été, comme certains personnages, comme d'ailleurs le personnage de la nouvelle de Cortazar, à avoir été un mauvais lecteur. Et derrière cette imposture fondamentale se cache en fait un complot ourdi de longue date par un ultime coupable qui est le narrateur. Agatha Christie nous en a fourni la preuve éclatante avec le meurtre de Roger Ackroyd, où le narrateur, dont la position de témoin, de maître du récit semblait l'innocenter par avance, s'est en fait révélé être le coupable. Et cette mauvaise foi du narrateur, on observe qu'elle fait en fait très souvent l'objet d'un véritable jeu de piste qui organise une sorte de dynamique romanesque parallèle à celle de l'intrigue. C'est notable dans Le Voyeur de Rob Grier ou dans Projet pour une révolution à New York, où on va avoir des mentions régulières assez équivoques du genre « selon le narrateur »,« à cause de l'imagination du narrateur »,« dans votre narration », etc. Et d'ailleurs, le coup de théâtre final dans Projet pour une révolution à New York surjoue cette incrimination de la narration, puisqu'à la fin, le docteur M soulève son masque devant le docteur Morgan qui, je cite, « reconnaît avec stupéfaction les traits du narrateur ». Dans 53 jours de Georges Perec, Salini, qui est un enquêteur dans la deuxième partie du roman, qui enquête à partir d'un manuscrit sur une histoire de meurtre, ce manuscrit est en fait la première partie du roman que nous avons lu, et Salini se retrouve, je cite, dans la même situation que le narrateur de 53 jours. Il a même, parfois, je cite, besoin de se rassurer en énumérant tous les traits qui le distinguent de ce personnage. Donc vous voyez la mise en cause ici du narrateur. C'est ce que fait aussi Jacques Roubaud dans La Belle Hortense avec deux chapitres qu'il consacre au narrateur. Le chapitre 6 où l'inspecteur Blognard n'est pas fâché de l'occasion qui lui est donnée de s'expliquer enfin sur ses relations avec le narrateur. Et le chapitre 7 qui s'appelle Le narrateur. Narrateur qui est extérieur à l'histoire, mais qui prend parfois les traits d'un personnage épisodique, qui intervient parfois comme dans ces chapitres. Et on observe Blognard, l'inspecteur, en train de formuler une hypothèse perverse, mais qui, depuis le meurtre de Roger Ackroyd, ne peut plus être évitée, qui est celle de la culpabilité du narrateur. Mais en même temps, à l'encontre de ce schéma auparavant inattendu et désormais relativement prévisible, Roubaud fait de son narrateur un personnage plutôt sympathique, voire tout à fait inoffensif, et qui va même finir par épouser l'héroïne Hortense. Il réalise donc le tour de force d'inventer un roman policier bienveillant, qui s'affiche de bonne foi. Et d'ailleurs, le roman, à plusieurs reprises, affirme que l'auteur et le narrateur, qui prennent la parole de temps en temps, n'en savent pas plus que l'inspecteur et le lecteur. Évidemment, c'est un leurre qui vient rejouer d'une autre manière la mauvaise foi du récit policier qui est nécessaire à son fonctionnement. D'où cette ultime question, l'auteur peut-il sortir indemne de cette suspicion à l'encontre du narrateur ? Rien n'est moins sûr puisque derrière le narrateur, c'est souvent lui qui se profile, comme on peut le voir dans l'emploi du temps de Butor, puisque l'enquête de Revel se cristallise sur une obsession qui est, je cite, « l'identité véritable de l'auteur du meurtre de Blaston », le roman policier, un auteur dont le nom véritable, Burton, a quelques indiscutables similitudes avec celui de Butor, évidemment. Dans « Projet pour une révolution à New York », l'intrigue fusionne à plusieurs reprises avec celle du roman policier dont j'ai déjà parlé, et le narrateur constate ceci en le lisant. « Je me suis aperçu dans mon rapide parcours du roman que des trois éléments du secret gardés par l'héroïne, l'un était connu par le lecteur, le second par le narrateur lui-même et le troisième par l'auteur du livre uniquement. » Le lecteur est donc bien prévenu, ni le narrateur ni l'auteur ne sont de bonne foi. Et dans 53 jours de Perec, Salini en vient au bout d'un moment presque à se demander, je cite, s'il n'a pas été explicitement désigné par l'auteur du manuscrit qu'il est en train de lire pour devenir le coupable. Et la supercherie finale démontre que ce doute n'était pas sans fondement, puisqu'elle nous apprend que c'est un certain Georges Perec qui a rédigé ce manuscrit, donc toute la première partie que lit Salini, dans le seul but de fourvoyer l'enquête de Salini, voire de le faire passer pour le coupable. Et on voit bien l'accusation directement contre l'auteur. Et si bien que cette culpabilité de l'auteur tend, comme celle du narrateur, à devenir un passage obligé des réécritures du roman policier, des récits trompeurs, comme le déclare encore Jacques Roubaud dans L'enlèvement d'Hortense, qui dit ceci: « Les rapports de Blognard avec la littérature n'étaient pas très grands. Aussi avait-il une grande méfiance envers la littérature moderne, et il ne se rendait pas compte qu'il n'y avait aucune chance pour que mon livre fût cette variation incongrue et avant-gardiste du roman policier, celui où l'auteur est le coupable. » Alors bien sûr, on en a vu là plusieurs exemples, et sur cette variante, on pensera encore à la disparition de Pérec, où Pérec a eu la malice de glisser un petit clin d'œil dans le texte, puisqu'il donne au barbu, qui est le commanditaire des assassinats, ses propres traits, notamment sa cicatrice, qui parcourt ses textes, qui revient régulièrement. Et surtout, à la fin du roman, au dénouement, on n'apprend rien sur la manière dont les meurtres se sont déroulés. Et à la place, on apprend une chose dans le post-scriptum, c'est que c'est le scrivain, en langue lipogrammatique, le scrivain qui est coupable parce qu'il a tout prévu, parce qu'il est le maître du lipogramme qui retranche les « e » et qui supprime les personnages. Il y a là une substitution qui est saisissante parce qu'elle nous suggère ceci: rien ne sert d'expliquer comment les meurtres ont été commis, comme dans le roman policier traditionnel. Il suffit de savoir qu'ils ont tous été tramés par l'écrivain et son texte dans une sorte d'opération de magie textuelle pour laquelle les explications causales issues du réel ne sont finalement d'aucune portée. Et voilà qui donne donc encore plus de poids à cette exclamation d'Anton Voyle dans son journal intime après une réécriture de Moby Dick. Il écrit « à Moby Dick, à Moby Bick » avec une contrepétrie qui associe donc le bic, le stylo, au symbole de la disparition, la baleine blanche. C'est donc bien la plume qui assassine, et vous aurez beau en chercher le comment, il demeurera le secret bien gardé de l'écrivain. Et dans l'ensemble de la disparition, justement, c'est la lettre maudite qui extermine beaucoup plus que des personnages, parce que dès que quelqu'un va prononcer le « e », il trépasse. Et l'une des dernières mises à mort, c'est celle de Savorgnan. Elle me semble assez emblématique puisqu'elle passe par un Smith Corona. Un Smith Corona, ce n'est pas le traditionnel revolver du roman policier qui est un Smith & Wesson. Un Smith Corona, c'est en fait une marque de machine à écrire. Et Savorgnan est rayé d'un trait. Ce meurtre me semble bien révélateur, puisqu'il nous dit bien que c'est le texte qui met à mort, par sa mauvaise foi, par son rapport de force avec le monde, le langage et le lecteur. Comme chez Agatha Christie, et en particulier dans ABC contre Poirot, c'est la lettre qui tue, c'est la littérature et l'auteur qui, en dernière instance, sont coupables de mauvaise foi, et le lecteur coupable de ne pas s'en être aperçu. Alors, deux mots pour conclure très rapidement. Tous ces récits trompeurs et ces réécritures de romans policiers, pour notre plaisir et notre effroi, non seulement nous signalent la mauvaise foi du texte, mais nous y confrontent de manière spectaculaire. Ils font de la lecture un jeu, une rivalité, mais aussi une entreprise risquée où c'est notre capacité herméneutique qui est mise à l'épreuve. Leur omniprésence dans la littérature du XXe siècle, sous des formes extrêmement diverses et inventives, répond en fait à une triple crise qui prend racine au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. D'abord, une crise du savoir, de la vérité et de l'herméneutique, dont la littérature souligne la fragilité tout en maintenant la possibilité. Une crise du sujet, qui renvoie l'être humain à ses impostures, à sa mauvaise foi, à son altérité. Et enfin, une crise de l'authenticité, qui renvoie cette fois la littérature à sa mauvaise foi. Évidemment, si le désenchantement et le pessimisme semblent toujours se profiler derrière cette triple crise, les récits trompeurs, sans nier cette crise, ont su en jouer et dans l'excès et la transformer en une sorte d'influx vital comme pour résister à cette littérature de l'épuisement qui gagnait le siècle et qui finalement les menaçait. Je vous remercie.